Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Ast est une des rares marques de mode engagée qui n'en a pas l'air. La raison est simple. Depuis 2012, elle place le service rendu au style masculin au cœur de son propos, gageant que la qualité n'est pas un sujet sur lequel transiger et que la fabrication responsable ne saurait constituer un argument marketing. Plus rare encore, elle a été cofondée par trois bootstrappers. Comprendre, des entrepreneurs qui développent une croissance maîtrisée, sans lever de fonds, ni ambition de revendre à court terme leur bébé des dizaines de millions. La Startup Nation, ils y sont allés à leur rythme et en toute discrétion. Avec une stratégie mixte, en ligne puis en boutique, presque pas de revendeurs, une équipe unie qui grandit et des clients dont la fidélité avance avec l'âge. Forte et tranquille dans la tempête, économique comme climatique ou encore réglementaire à l'approche de l'affichage environnemental, cette marque fait partie de celles rares dont le story proving supplante le storytelling, le premier des deux n'étant pas sponsorisable sur les réseaux. Je suis d'autant plus heureuse de faire de la place à Sami Ziani pour nous parler de Ast aujourd'hui. Bonne écoute!
Bonjour Sami, bonjour Flore.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à la caserne, je pense que c'est le dernier épisode qu'on enregistre ici. Je ne sais pas si on peut s'en féliciter, mais en tout cas c'est déjà poser une pierre d'originalité. Ça fait hyper longtemps qu'on essaye de trouver un moment commun pour avoir la place d'échanger sur tout ce qu'on a à se dire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'il ne faut pas forcer les choses et qu'aujourd'hui, on est en pleine période de rentrée, hyper agitée. Tout le monde court partout. On est en période complexe, économiquement parlant, pour les marques de mode et pour... l'industrie en général. En quelque sorte, on peut dire que la mode traverse diverses crises énergétiques, économiques, de confiance de la part des utilisateurs. Il y a des sujets de réglementation qu'on va aborder ensemble parce que vous êtes un peu pionniers de la mise en application des textes qui sont censés être en vigueur. On va aborder tout ça et on va prendre le temps avant ça de revenir sur l'histoire d'une marque qui a déjà 11 années. Il y a des choses à dire et je pense qu'elle a connu d'autres crises que celle-ci. Donc c'est ça qu'on va partager aujourd'hui avec nos auditeurs. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, dans l'ordre que vous voulez, par vous présenter?
Vas-y, Flore, je t'en prie.
Flore Mollier, je suis responsable achat et production de la gamme de produits Ast.
Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi, qui tu es avant Ast?
Avant Ast, je suis une passionnée du produit. J'apprécie les marques responsables, engagées. Et je pense qu'il est important de continuer à apprécier la mode et d'en profiter, mais d'une manière plus durable.
Et qu'est-ce que c'est ton parcours scolaire ou professionnel? Tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement jusqu'à la marque?
Jusqu'à la marque, parcours plutôt classique, je dirais. Classe préparatoire, puis école de commerce et ensuite beaucoup de stages dans des entreprises et dans des marques de prêt-à-porter et mon tout premier stage chez Ast il y a bientôt 5 ans.
D'accord, donc c'est la continuité d'une première histoire pré-professionnelle, mais école de commerce, ça veut dire que tu n'as au départ pas de formation aux produits, j'allais dire vulgairement, peut-être en dehors des tableurs Excel, mais tout ce qui est connaissance des matières, etc., qui me semble être quand même un sujet sur lequel on va revenir chez vous.
Alors, finalement, j'ai tout appris en entreprise. Mmh. Et c'est vraiment les stages qui m'ont permis de connaître les produits, d'aller plus en profondeur sur les matières, sur les manières de faire, de comprendre tous les enjeux qu'implique une chaîne de production. Et après, avec des postes différents, donc c'est-à-dire d'abord en développement produit, puis en achat, puis en production, avec tous les sujets annexes tels que la logistique et les sujets RSE.
Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une gestion à 360 degrés du produit, aussi bien sur la phase de développement produit en lui-même que peut-être plus marchande, on va dire. Hyper intéressant. On va revenir sur la question des centrales d'achat sur laquelle Coraline, à mes côtés, a écrit récemment. Et la problématique que ça peut représenter dans la mode, on va dire, non durable. Samy, est-ce que tu peux nous parler de toi ?
Oui, donc Samy Ziani, je suis un des co-créateurs de la marque Ast il y a maintenant 11 ans, comme tu l'as signalé. J'ai un parcours relativement classique aussi, puisque j'ai fait une école de commerce. Puis j'avais par contre toujours l'ambition de créer une entreprise et particulièrement une marque de vêtements. Donc, je me suis associé à deux amis après nos formations. Et voilà, je m'occupe de la communication et du marketing chez Ast. Et je suis très sensible à la durabilité, à la production, parce que depuis le début, on pousse pour vraiment travailler sur des matières naturelles, sur des productions locales. Et donc, pour moi, c'est un enjeu important, niveau produit et communication.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de la répartition de vos rôles dans l'entreprise ? Vous êtes toujours les trois cofondateurs et peut-être de la genèse aussi, parce qu'il me semble, je ne sais pas si c'est vrai pour vous trois, mais que vous, pour le coup, ce n'est pas votre première expérience pro, voire vous n'avez pas du tout un bagage mode au départ.
Alors, en fait, on est trois, donc chacun a son parcours. Il y en a un qui avait déjà effectivement travaillé pendant 4 ans en finance, donc vraiment pas du tout d'expérience dans la mode. Et les deux autres, pour le coup, on était en business development, mais c'était notre première expérience. Donc, pour le coup, on a appris comme ça. Donc, on va dire quand on sort d'école à 21 ans, 22 ans, on ne sait pas grand-chose. Donc là, nous, on a commencé en créant une marque. C'était notre vrai apprentissage du monde de l'entreprise et de la mode. Et là, forcément, on a commencé par un seul produit, parce qu'on s'est dit, tiens, on va devenir des spécialistes. On s'est intéressé à la chemise, parce qu'à l'époque, on était des clients. Simplement qui portaient ça de manière régulière pour nos différentes expériences, même si c'était des stages, mais ça n'empêche qu'on devait en porter tous les jours. Et forcément, pour un jeune qui n'a pas beaucoup de budget, on se disait, tiens, pour quelqu'un qui a quand même un peu d'engagement, qui n'a pas envie de porter n'importe quoi, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le marché pour l'homme. La femme commençait peut-être à faire un petit travail, mais chez l'homme, honnêtement, c'était juste, ils vendaient des bundles de chemises x4 à 100 €, c'était le seul argument marketing. Et personne ne s'intéressait vraiment aux produits. L'idée, c'était juste d'avoir quelques chemises à un prix pas trop élevé. Et nous, on s'est dit, comment réconcilier quand même une certaine qualité avec un prix qui reste accessible ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même la notion du budget pour... à l'époque, pour les étudiants qu'on était, et pour le jeune actif qui était Thomas, le troisième associé, parce qu'il y a Emmanuel et Thomas, mes deux autres associés que je n'ai pas présentés. Et donc, du coup, bah, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on se lance sur la chemise. On s'est intéressé au marché et on s'est rendu compte que, en fait, il y avait un positionnement à l'époque qui était quasiment unique. C'était je produis des chemises avec une certaine marge car j'ai plusieurs intermédiaires qui doivent tous être rémunérés. Et donc, du coup, bah, j'ai des prix qui sont 5-6 fois plus élevés que mon coût de revient. Et donc, on a fait une analyse assez économique. C'est pour ça que c'était bien d'avoir fait une école de commerce aussi. On s'est dit, tiens, combien coûte ce produit et combien on est capable de le vendre. Et on s'est dit, tiens, en n'ayant pas d'intermédiaire, ou très peu, si ce n'est la chaîne de production, quoi, mais en tout cas, dans la vente et la distribution, zéro intermédiaire, on peut diviser ce prix par deux, et tout en ayant une qualité assez élevée. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé sur la chemise. Donc au début, sans connaissance vraiment du produit, mais on a appris, parce qu'on était encore jeune, et on s'est entouré de personnes qui s'y connaissaient très bien, des ateliers hyper compétents. Et grâce à ça, on a réussi à créer vraiment une marque spécialiste de la chemise, avec un vrai avantage compétitif, c'est qu'on avait vraiment des chemises qu'on ne trouvait pas sur le marché, fabriquées en Europe, des super matières, des finitions hyper haut de gamme. Mais à l'époque, 54-59 €, il y a plus de 11 ans, et il n'y avait pas d'acteurs en France à ce niveau-là.
pour bien comprendre, parce qu'il y a plusieurs choses que j'entends dans, dans le début de l'histoire, d'après ce que je comprends, une problématique de, donc de qualité produit qui n'est pas satisfaisante, une problématique de positionnement prix entre peut-être un Célio et un Figaré, quoi, grosso modo, et après beaucoup plus haut de gamme, mais c'est vrai que l'entre-deux n'existe pas. Tu as parlé d'une question de qualité et de choix des matières, et tu as parlé aussi de durabilité. J'avais plus la sensation que la durabilité, elle était presque intrinsèque chez vous par cette volonté de bien faire de la qualité au départ, du circuit court et des matières naturelles, parce que globalement, le polyester, vous captez quand vous portez la chemise une journée que c'est pas ouf. Donc, qu'est-ce que c'était vraiment, tu vois, le point de départ? Est-ce que vous vous êtes dit, OK, il faut qu'on trouve des confectionneurs incroyables ou bien il faut qu'on trouve des matières incroyables? Et comment vous avez fait? Parce que là, on a l'impression que c'était hyper cool, mais aujourd'hui, pour trouver des partenaires de confection de qualité en Europe qui font des prix qui sont corrects, et on reviendra sur la stratégie de distribution après, hein, mais ouais, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus le process des premières années?
Oui, oui. Bah, l'aspect durabilité, en fait, ça n'a jamais été une question. Pour nous, ça, c'était intrinsèque, quoi. C'est vraiment, on va faire des matières naturelles confectionnées en Europe. Maintenant, ça paraît peut-être plus évident, mais à l'époque, c'était dans notre ADN. Et on n'en a même pas fait un énorme argument. Souvent, on nous le disait, mais c'est bête, vous devriez le dire. Et en fait, on n'en a pas fait un argument. Pour nous, ça paraissait évident. Si on voulait exister et durer, nous aussi, la marque, bah, il fallait faire des produits durables et pas simplement un coup, voilà, faire peut-être un peu de marketing et de com et réussir à grandir. Mais 2-3 années plus tard, on n'avait pas beaucoup d'espérance de vie, quoi. Et donc, du coup, la durabilité est, a toujours fait partie de la marque Ast, quoi. Et comment bah, on a fait bah, honnêtement, c'est beaucoup de boulot de recherche, de rencontres, de faire des tests. C'est, on lance jamais des produits au hasard. Il y a beaucoup, beaucoup de débats en interne. Jusqu'à maintenant, encore tout à l'heure, on se disputait sur le lancement d'un produit parce qu'on veut vraiment que ça corresponde à nos valeurs, même si on n'a pas des produits qui sont très chers, comme pourrait... devrait le faire une marque de luxe, c'est-à-dire se poser des centaines de questions avant de lancer quelque chose. Nous, on fait ça pour des produits qui sont vendus à moins de 100 euros et ça dure. Et même si ce n'est pas des volumes astronomiques, ça n'empêche qu'on passe beaucoup de temps. Et c'était déjà le cas dès le début. Dès qu'on voulait lancer un produit, une chemise, il fallait que ça réponde vraiment à des critères de qualité, à des critères d'accessibilité, tout en ne jamais baissant bah, l'esprit de durabilité, de local. Et, parce que ça, c'était dans tous les cas dans le cahier des charges. En fait, on ne prenait pas de tissu ou d'atelier s'ils ne respectaient pas certaines... Donc, dans tous les cas, en fait, ça se posait même plus la question. Donc ça, dès le début, on a cherché, on a fait des tests, on a essuyé quelques échecs parce qu'on se rend compte parfois que l'atelier qui est en Italie, en fait, il n'est pas vraiment en Italie parce qu'il a sa production qui est en Chine et qui fait juste... Enfin, ça peut arriver. Donc, après ça, c'est beaucoup d'investigations.
Et vous êtes allé sur place, du coup, pardon, pour vous rendre compte de ça, ou bien c'est...
Ouais, ou non, c'est en creusant, en fait, ouais. En posant des questions, en demandant plus d'informations, et ben, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément toutes les infos, donc parfois, nous, on refuse de se voiler la face, donc parfois, on va un peu plus loin, on pose plus de questions, et sur la plupart de notre chaîne de production, en tout cas, on essaie d'être hyper intransigeant à ce niveau-là.
Et donc ça, je reviens sur cette histoire parce qu'elle me fait penser à une anecdote que j'ai entendue récemment. C'était uniquement sur des prototypes ou c'était, par exemple, vous avez été livré de produits qui ne vous convenaient pas en termes de quali et...
Non, on ne lance pas de prod sans être sûr.
D'accord. Ouais, j'ai entendu récemment l'histoire d'une marque de sous-vêtements menstruels qui s'était fait livrer du Made in Portugal et qui a découvert qu'en fait, c'était du Made in Maroc par un partenaire de l'usine. Mais par contre, qui s'est retrouvé avec sa prod de je sais pas combien de milliers de pièces et qui était dans un vrai dilemme de « Ok, on vend du Made in Europe, mais donc est-ce qu'on vire tous ces produits ou est-ce qu'on les vend en expliquant que parce qu'on a des invendus sur les bras et que c'est du gaspillage ?» C'est un vrai casse-tête, mais ça montre qu'effectivement, il faut mettre les mains dedans et que vraiment, il y a des personnes, en l'occurrence vous, à l'époque, parce que vous n'étiez pas beaucoup, pas nombreux, j'imagine, dans la marque, mais des personnes qui soient dédiées à ces questions et que la traçabilité, c'est jamais clé en main. Quoi.
Globalement,
on est au début et vous avez un circuit plutôt court avec des partenaires qui sont...
Oui, après, il faut faire le choix, nous, d'une croissance maîtrisée. C'est que si à un moment, on veut aller très vite, ben, on est... plus capable de tout contrôler, de tout vérifier. Nous, voilà, depuis 11 ans, on aura peut-être pu aller plus loin. On a bien grandi, on est nombreux maintenant, on a plusieurs boutiques, mais certains nous disent, tiens, vous pourriez lancer ça, faire ça, mais sauf que nous, on en prend le temps de bien faire les choses. Et malheureusement, quand on va aller trop vite, bah, y a des choses qu'on ne peut pas... Et parfois, on part avec une prod comme ça, qui n'est pas fabriquée là où on souhaite. Et nous, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter.
Alors, on va revenir sur cette question extrêmement importante de croissance maîtrisée. Avant ça, je reviens vraiment au fondement de la marque parce que c'est important pour comprendre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout monoproduit, mais donc dans ce monoproduit qui est la chemise, qui est en soi déjà un produit complexe et qui a quand même quelques dizaines de variantes possibles, quelle était la promesse esthétique et comment est-ce que vous avez fait correspondre, tu vois, le choix des matières qui est peut-être d'ailleurs le même aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, tu vois, le type de matière que vous proposez, qui vous semble être les matières responsables? C'est peut-être d'ailleurs une réponse mixte par vous deux.
Depuis le lancement de la marque? Enfin, au début de la marque,
du coup? Au début de la marque, voilà, si on peut parler un peu du monoproduit chemise, déjà, mm-hmm. quelle était la promesse au départ de la marque en termes d'esthétique? Et puis ensuite, en termes de choix des matières, vu que c'était uniquement des matières naturelles, est-ce que ça, pour la chemise, ça a évolué? Et quel type de matière vous proposez et qu'est-ce que vous travaillez?
Alors, en termes de matière, on n'a pas forcément élargi la gamme parce qu'on travaillait vraiment avec des matières dites conventionnelles pour la chemise, du 100% coton, de la popeline. Après, c'est plus en termes de...
En double rotor aussi.
Voilà, de différentes qualités qu'on utilise au quotidien. Mmh. On utilise de l'oxford, du twill, du chevron. Donc, depuis, on a beaucoup élargi la gamme.
Mais sincèrement, on avait déjà fixé nos exigences assez hautes parce qu'on travaillait avec des tissus déjà très haut de gamme pour la chemise formelle, dans le prêt-à-porter en tout cas, et que du coup on n'a pas réduit nos exigences depuis, quoi. C'est...
Voilà. Le cahier des charges est resté le même,
ouais.
Voire même il s'est renforcé. Ouais.
Pour compléter, Flore, pardon, effectivement, depuis le départ, on s'est dit vraiment, on essaie de faire le mieux possible sur la chemise formelle. Et l'idée de la durabilité, c'est que ça soit aussi des produits intemporels. Parce que si c'est des effets de mode qui, l'année d'après, sont perdus et que personne ne souhaite acheter, c'est pas forcément durable. Donc nous, on a vraiment travaillé sur des basiques avec des matières, comme disait Flore, naturelles, popeline en double rotor pour les chemises formelles. C'est vraiment un gage de résistance. Et depuis, on fait toujours la même chose. Simplement, on a élargi la gamme de chemises à des chemises plus casual. Il y a un côté classique, mais parfois un peu plus... recherché
plus
sur des matières, parce qu'entre temps on a grandi et qu'on a de plus en plus de demandes de clients qui étaient des clients historiques sur le formel, mais qui ont commencé à apprécier la marque et qui ont voulu plus de produits, quoi.
Et puis qui ont un look qui a aussi évolué et qui s'est adapté à leur quotidien au travail aussi.
Donc de fait, sur ces chemises, si on peut détailler un petit peu ce que tu évoquais en entrée sur le positionnement prix. Et la stratégie de distribution, pareil, dans les premières années de la marque, d'après ce que j'ai compris, c'était uniquement direct au consommateur. Mmh. Qu'est-ce que c'est, tu vois, finalement, qui est le client type de Haas? Quel est le prix moyen d'un produit? Et peut-être nous parler du choix de cette stratégie de distribution au début.
Ok, alors la marque, elle a beaucoup évolué depuis 11 ans. Forcément, au début, le client, il nous ressemblait. C'était un client entre 25 et 35 ans qui portait ses premières chemises ou qui en avait déjà plusieurs, mais qui renouvelait de manière régulière qui avait besoin d'avoir une marque de confiance sur laquelle il pouvait miser avec des chemises qui durent, même s'il devait les renouveler parce que c'était des usages très réguliers. Enfin, c'était tous les jours à l'époque. Entre-temps, notre client, il a un peu évolué parce que la chemise au bureau... c'est devenu quelque chose de pas forcément obligatoire dans certains métiers, moins conventionnel. Les styles sont devenus un peu plus décontractés. Et ce client, au fur et à mesure, il a grandi comme nous. Maintenant, il est plus entre 30 et 40 ans. Il cherche toujours cette qualité. Et par contre, il souhaite un style un peu plus twisté, le simple, tout en ayant la possibilité, en cas de besoin, d'acheter cette chemise, cette fameuse chemise blanche, bleue, qui est un peu la base de son style. Mais à côté, il veut pouvoir ajouter une veste en chevron, un peu plus avec un... Voilà, plus habillé, mais aussi avec un petit twist sur le col, un truc un peu plus rétro. Enfin, simplement, la chemise formelle en elle-même ne suffit plus. C'est pour ça qu'on a développé le reste de la gamme.
Très bien. Et en termes de positionnement prix, écoute.
Ouais, on est toujours, sur le... Alors, on communique plus trop sur ça, mais ça n'empêche que c'est... on essaie de plutôt donner envie d'acheter la marque. Et on se rend compte que derrière, le prix n'est pas très élevé pour ce qu'on propose, parce qu'on est sur du made in Europe, 100% naturel. Donc, on était sur, à l'époque, une gamme accessible. Mais ce qui nous ennuyait le plus... C'est pour ça que j'aime pas trop parler de ça, parce que souvent on associait la qualité à un prix. Et justement, on voulait on voulait pas faire ça, nous, parce que souvent on nous disait, bah, entrée de gamme, Ast, à 54 euros. Et entrée de gamme, les gens, ils se disent, bah, c'est que c'est de la qualité, entrée de gamme, quoi. Non, en fait, nous, on voulait que dire que le prix, c'était pas forcément un gage de qualité. Et qu'il y a des marques qui étaient vendues 150 euros, pourtant, leur tissu, il est 10 fois moins bien que le nôtre, il est fabriqué au fin fond d'un atelier qu'ils ont jamais visité. Et ça nous énervait beaucoup au début. Parce qu'on était toujours catégorisé entrée de gamme. Parce qu'on était jugé que par le prix. Alors qu'en fait, il faudrait aussi une distinction de gamme par la qualité. C'est quand même ce qui devrait être le plus important que le prix. Parce que le prix, c'est la marque qui le fixe. C'est pas compliqué de se vouloir haut de gamme en affichant 200 euros sur une chemise qui en vaut 10, quoi. Donc c'était vraiment... Voilà, c'est pour ça que souvent, je fais attention aux termes que j'emploie quand on parle de gamme pour nous.
Ouais, j'allais dire 200 euros le positionnement prix pour un truc cheap, c'est la recette du luxe industriel.
Hein, ah bah oui, oui.
Donc, alors ça m'intéresse. Comment est-ce que, tu vois, il y a 11 ans, donc on est en 2012, année d'ouverture d'Instagram, bon, Facebook est déjà là, vous êtes en D2C, donc les DNVB, ok, c'est le début de cette, de la vague, en fait, de toutes ces marques qui sont sur le même modèle, qui sont nées à ce moment-là. Mmh. Et on va voir que la stratégie n'est pas forcément pérenne sur ce monocanal. Mmh. Mais comment vous faites, vous, tu vois, pour jouer des coudes, pour amener cette pédagogie aux clients? C'était quoi vos supports? Et ouais, comment vous avez fait comprendre votre produit et sa qualité?
Alors, ça, honnêtement, ça paraît basique, mais ça a été l'honnêteté, la transparence, en fait.
Mais sur quel support?
Les supports, alors clairement, ça a été effectivement le site et les newsletters au début.
Ouais.
Parce qu'on a une base de clients qui s'est agrandie. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, du coup, on transmettait les contenus par le site et les newsletters. Ensuite, on a beaucoup de Facebook à l'époque. C'était, c'était huge. C'était pas, c'était pas, et il n'y avait pas besoin de milliers d'euros pour se faire connaître. J'avoue que c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais à l'époque, la publicité Facebook n'était pas forcément utile pour avoir beaucoup d'abonnés et de fans. Donc, très vite, on a une grosse communauté de clients qui ont aimé notre discours de transparence, même si maintenant, c'est un terme qui est employé par tout le monde. Ça n'a plus trop de valeur, je trouve. Mais il y a 10 ans, c'était encore quelque chose qui avait un sens. Et donc, du coup, à l'époque, très vite, les gens adhéraient à nos discours. Et on a eu pas mal de gens qui nous ont suivis sur cette démarche de sans intermédiaire, des marques D2C. Donc, à l'époque, on n'était pas nombreux sur ce créneau. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. On communiquait sur Facebook, sur le site et sur notre newsletter.
Ça veut dire que, enfin, c'est quand même un challenge parce que vous avez à la fois un taux de, j'allais dire, repeat users, c'est pas exactement ça, mais de clients récurrents importants, tout en ayant un produit que t'as pas besoin d'acheter tous les matins. Donc, c'est quand même la démonstration de force qu'on n'est pas obligé d'avoir un turnover de dingue dans ses collections et un renouvellement de la proposition de valeur esthétique à la Chine, tous les matins pour vendre. Ok, hyper intéressant. Bon, jusqu'ici, j'ai un peu l'impression que c'était presque un long fleuve tranquille, mais est-ce que tu peux me parler, donc si on fait vraiment une accélération dans le temps, entre il y a 11 ans et on va dire la période du Covid, qu'est-ce qui s'est passé qui a pu être challengeant? Et notamment, je pense à finalement à quel moment vous avez décidé d'ouvrir le vestiaire, de l'élargir, parce qu'aujourd'hui vous avez un vestiaire hyper complet, ça fait déjà quelques années. À quel moment vous avez décidé d'élargir le vestiaire? Et aussi, en parallèle de ça, puisque la société a grandi, tu l'as dit, de façon maîtrisée, mais avec l'ouverture d'une puis plusieurs boutiques, comment est-ce que vous vous êtes structuré, si on peut en parler, tu vois, avec des capitaux externes ou pas? Enfin, ça a été quoi le cheminement de cette marque à la croissance maîtrisée, mais peut-être solide?
Alors, je vais tenter d'expliquer le cheminement de manière succincte, mais alors entre ça marche. Alors entre 2012 et 2017, on a beaucoup travaillé sur la chemise, donc développement de la chemise pour hommes, agrandissement de la gamme, plus de casual, un petit peu de collection mais pas trop. L'idée, c'était vraiment d'être un expert de la chemise. On a beaucoup travaillé sur ça. Ensuite, à partir de là, on a une base de clients qui a commencé à vraiment apprécier de plus en plus la marque et qui nous a pas mal challengé sur de nouveaux produits. Donc, on ne voulait pas développer des vêtements pour développer des vêtements. On a vraiment fait des questionnaires. Je sais que maintenant, il y a eu pas mal de marques qui se sont développées sur ce modèle. Donc, comme on a fait il y a un moment déjà, en 2016, je crois, pour développer nos premiers produits, autre que les chemises, on avait fait des questionnaires auprès de notre base pour savoir si vraiment il y avait d'autres produits sur lesquels ils estimaient que Ast serait pertinent, qu'il y aurait quelque chose à apporter de plus qui n'existait pas déjà sur le marché.
Tu peux partager les résultats. Enfin, tu vois, c'était quoi, par exemple, s'il y avait un produit particulièrement émergent ou globalement, il en sortait quoi?
Rien d'original, hein. C'était la continuité, quoi. Il y avait pantalon, veste, des choses sur lesquelles il n'y avait pas forcément d'offres suffisantes, en tout cas qui répondaient à des critères comme celles qu'on avait fixées pour les chemises. Donc vraiment sur quelque chose d'autre gamme accessible, fabrication européenne, matière naturelle. Voilà, il y avait encore cette opacité sur d'autres produits et qu'on avait réussi à résoudre un peu sur les chemises. Et donc on a développé comme ça. Alors les vestes, on s'est dit qu'on a essayé de trouver quelque chose aussi de différenciant. Et le vrai produit qu'on a développé après la chemise, c'était la veste de travail. Donc c'était un modèle mix entre formel et casual. On essayait de travailler sur des matières, encore une fois, hyper haut de gamme, qui venaient de France, d'Italie. Et c'est sur ça qu'on a... Maintenant, c'est un produit qui est hyper porté. Mais en 2017, je crois, quand on l'a lancé, on n'avait pas beaucoup sur le marché. Et on a vraiment proposé une gamme de couleurs assez large, qui était vraiment intemporelle. C'est vraiment la workwear jacket qu'on peut mettre tous les jours, toute l'année. Donc, ça a vraiment cette durabilité, parce qu'en plus, ça patine, on la garde pendant des dizaines d'années et ça reste toujours aussi cool. Donc on a développé ça. Ensuite, sur le pantalon, des vestes plus formelles, jusqu'à élargir toute la gamme. Honnêtement, je n'irai pas dans tous les détails, mais par contre, toujours avec cette exigence de qualité. Ça, on n'a jamais réduit quoi que ce soit. On n'a jamais lancé un produit sans être sûr de la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, de la qualité de fabrication, des tests. On les a portés. Voilà un peu le développement de la marque d'un point de vue produit. Après, d'un point de vue la société Ast Paris, la marque Ast, depuis le début, on est les trois associés. C'est ce qui nous a permis d'avoir une croissance maîtrisée. On n'a jamais eu de pression pour aller plus vite, pour grandir plus vite. Et bah, alors, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, mais pour l'instant, on a réussi à s'autofinancer avec des petits moyens au début d'étudiants ou de jeunes actifs. Mais on a commencé petit et on a grandi comme ça. Et jusqu'ici, voilà, ça se passe toujours comme ça. Donc, l'avantage, c'est qu'on prend toutes les décisions à trois et aussi avec toute l'équipe, parce que depuis le début, toutes les personnes qui sont arrivées chez Ast, j'espère que Fleur pourra en témoigner, ont tout leur mot à dire, surtout, et sur toutes les décisions. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, ce qui nous permet d'avoir toujours des décisions qui sont challengées. Avant de lancer un produit, de choisir tel atelier, d'ouvrir une boutique, y a toute l'équipe qui donne son avis. Alors on finit par décider si jamais on n'est pas tous d'accord, mais globalement chacun a le droit de donner son opinion et elle a la même valeur que toutes les autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on a grandi doucement mais sûrement. Et donc on a ouvert une boutique parce que c'était le site internet. Il y a un moment, on sentait qu'il y a certains clients qui ne passerait pas l'étape d'achat sur Internet sans avoir pu essayer le produit.
C'était quand ça, la boutique,
c'était... Alors, la décision, on a fait pas mal de pop-up avant qui nous ont clairement confortés sur le fait qu'il y a une partie de la clientèle n'est pas forcément âgée. Donc, même des personnes qui sont très à l'aise avec Internet, mais qui n'achèteront pas. Donc ça, c'était dès 2014. On a commencé à faire des pop-up un peu partout en collaboration avec d'autres marques. Et 2016, on a ouvert notre propre boutique, mais on avait même nos bureaux derrière. Donc, l'idée, c'était vraiment la vitrine du site. Donc, c'était dès qu'un client avait besoin de venir voir le produit, l'essayer, l'échanger. Et on était là, les fondateurs, avec un responsable boutique pour les conseiller, discuter avec eux, avoir leur retour et tout. Donc, ça a très bien fonctionné. Clairement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de clients qui connaissaient la marque, mais qui n'avaient jamais osé acheter sur Internet ou qui n'avaient pas envie d'acheter sur Internet. Donc, du coup, là, tout de suite, on a eu beaucoup de monde. Et ça allait très vite, parce que l'année d'après, on a décidé d'ouvrir une deuxième boutique dans un autre quartier, à Paris. Le Covid est arrivé. Donc c'était en 2020. On avait ouvert la deuxième boutique en 2019. Et là, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait quand même une existence digitale à l'origine par rapport au Covid. Donc on a souffert comme tout le monde, mais on n'a pas... La pérennité de la boîte n'a pas été en jeu. On a réussi, voilà, avec beaucoup de boulot, parce que pour la prod surtout, c'était
un challenge
compliqué. Je laisserai Fleur en parler de manière plus précise. Mais pour toutes les parties de la boîte, ça a été difficile forcément, parce que personne ne savait où on allait finir. Mais en tout cas, on a réussi à résister à cette période, grâce aussi au fait qu'on a des clients fidèles, des clients qui ont continué à acheter à peine sorti du Covid, c'est reparti comme si tout allait bien. Donc franchement, ça a été une période difficile, mais pas non plus insurmontable. Voilà.
Est-ce que vous avez senti, c'est une micro-parenthèse, mais pendant le Covid, justement, une baisse ou juste après d'intérêt pour les chemises et soit l'avènement du télétravail, soit le retour plus casual au travail, ça s'est ressenti dans les choix de vos clients? Parce qu'à l'époque, vous avez déjà diversifié un petit peu l'offre, ou pas du tout?
Bah, oui et non, parce que d'un côté, les gens sont retournés au bureau, ils ont fait du tri pendant le confinement, ils se sont rendus compte qu'il y avait des pièces dans leur vestiaire qui ne correspondaient pas à, finalement, leurs besoins. Et du coup, ils ont voulu consommer mieux. Donc, dans ce cas, on a eu une augmentation de notre clientèle. On a des clients aussi qui ont souhaité mieux s'habiller, qui, là, sont partis sur davantage de chemises, de vestes, de pantalons plus habillés, plus élégants, parce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de s'habiller ainsi avant, dans leur quotidien. Et après, c'est vrai qu'à double tranchant, on a des clients qui, justement, s'habille de manière beaucoup plus décontractée aujourd'hui. Et donc, c'est là où l'élargissement de notre gamme entre en jeu.
Je ne sais pas poser la question du vestiaire féminin, mais alors, pour l'instant, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être un sujet peut-être plus tard ou pas d'ailleurs. En revanche, vous avez peut-être déjà une clientèle féminine qui, comme moi, pioche la moitié de ses vêtements chez les mecs, dont en partie chez Ast, je confesse.
Ah ben, pour être honnête, on a fait une capsule femme en 2015 et ça fait partie des décisions qui ont peut-être pas été. Tout le monde n'a peut-être pas donné son avis à ce moment-là. On est peut-être allé un peu trop vite. On a fait une collection capsule, alors on a testé le marché et on n'a pas. Enfin, je pense qu'on n'a pas forcément apporté la réponse que les femmes. On a attendu, justement, il n'y avait peut-être pas cet aspect style assez poussé. Il n'y avait peut-être pas la même. Enfin, dans la démarche qu'on avait, on avait essayé de répliquer ce qu'on faisait pour les hommes, c'est-à-dire qu'on avait fait de la super qualité, matière naturelle, fabrication européenne. Mais on a vendu nos produits, mais on n'a pas senti un engouement. Donc on s'est dit, on arrête là, c'était un test, et, c'était une capsule. Voilà. Mais après, entre-temps, on est content d'être une marque qui est dédiée à l'homme, mais dont les femmes peuvent piocher. Voilà. Donc parfois, on a fait des shootings avec des femmes. On sait qu'il y a beaucoup de clientes femmes qui achètent des chemises pour elles, mais qui ne piochent pas forcément, qui les achètent directement. Mais on ne fait pas forcément de travail de communication à ce niveau-là. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Mais en fait, on s'est dit qu'on avait encore beaucoup de chemin à parcourir chez les hommes avant de vouloir aller trop vite et de s'élargir. Voilà, tout simplement.
Aujourd'hui, vous avez combien de points de vente physiques ?
4, et avec le site physique 4, et on a un corner au Galeries Lafayette.
D'accord, pas d'autres revendeurs ?
Non.
Et ça, pareil, c'est un choix ?
Oui, clairement. Bah, les galeries, déjà, c'était un choix, on est content d'y être, hein, mais c'est, pour être très honnête, c'est plus de la communication pour nous, parce que les marges qu'on a ne nous permettent pas d'imaginer quoi que ce soit sur le long terme avec des grands magasins qui prennent la moitié. Alors pour bien sûr c'est normal parce qu'ils doivent payer leurs équipes et ça, mais nous c'est pas inclus dans notre marge, donc c'est difficile sans augmenter les prix de manière significative et ça fait pas partie de nos stratégies. Voilà.
Et d'autres revendeurs, tu vois, des petites boutiques indépendantes, ça, est-ce que vous pouvez expliquer ce choix?
C'est simple.
Alors déjà, on n'est pas forcément sur les mêmes rythmes que les autres marques qui distribuent à des revendeurs.
En wholesale.
Parce que nous, on pense la collection un an avant, mais pour autant, le modèle fait qu'on n'est pas capable de présenter la collection un an avant pour la revendre à des clients externes.
Parce qu'on analyse aussi toutes les collections actuelles avant de lancer une prochaine pour être sûr de ne pas reproduire certaines erreurs si ça n'a pas plu. Ou au contraire, d'appuyer sur certains produits qui sont demandés pour ne pas produire pour rien, tout simplement.
Ouais. Et puis après, le produire localement aussi, c'est produire avec des flux qui sont un peu plus tendus quand même. Donc on est sur des délais qui sont relativement faibles, mais en même temps qui sont assez impactants sur nos rythmes à nous de production et de mise en vente. Donc on travaille d'une saison à une autre.
Et après, de manière très pragmatique, il n'y a pas de marge pour ça, en fait. On n'a pas de marge pour l'intermédiaire. Dans notre, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, on travaille sur des produits... on a toujours été transparent à ce niveau-là. On est entre 2,5 et 3 dans la mode de marge. Donc, en fait, c'est impossible d'avoir quelqu'un d'autre. Sinon, ça ne marche pas. Donc, parce que forcément...
on devrait forcément inclure le coût dès le début. Chose qu'on ne fait pas aujourd'hui.
Aux US et au Japon, vous êtes vendu plus cher que...
Oui, voilà. Ouais. Ouais. Éventuellement, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de nos choix.
Non.
Mais il aurait fallu vendre deux fois plus cher nos produits pour pouvoir distribuer ailleurs.
Je reviens à la question de l'actionnariat. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. J'aimerais savoir si vous avez été déjà approché par des investisseurs, par des fonds. Et si oui, qu'est-ce que vous leur avez... répondu.
Oui, on a déjà été approché plusieurs fois, mais on leur a répondu qu'on n'était pas intéressé, tout simplement. Avec modestie et simplement, on leur a dit merci de vous intéresser à nous, mais que pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. On est content de pouvoir faire ce qu'on souhaite et sans avoir forcément d'autres personnes qui vont intervenir dans le processus de décision. Mais voilà, peut-être que ça peut être très bien, il y a des marques qui ont des investisseurs qui leur ont permis de grandir, de prendre les bonnes décisions. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose. Hein. Simplement, actuellement, on n'a pas eu le besoin ni l'envie. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être que ça nous permettra de grandir et de continuer à développer notre marque avec encore plus de pouvoir sur ses engagements parce qu'on sera plus crédible, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant... ça faisait pas partie de nos envies parce que la marque grandissait bien comme ça et que ça permet d'avoir une atmosphère très bien au bureau. Tout le monde est plutôt heureux chez Ast, donc ça, autant continuer ainsi.
Vous êtes combien aujourd'hui, les collaborateurs?
On est, avec les boutiques, on est 25 ou 26, je crois.
Et les boutiques sont à quel endroit en dehors de Paris?
À Lyon.
Ouais.
Et on aura bientôt une boutique éphémère à Bordeaux. Mmh. Et l'objectif, c'est d'ouvrir après si tout se passe bien.
Et donc, le reste de l'équipe est à Paris?
Oui.
Ok. En gros, je suis très curieuse, tu vois, de cette histoire de financement. Il n'y a pas du tout de bonne réponse. Lever des fonds, c'est pas mal ou bien en soi. Ça dépend de comment on fait, avec qui et pour quelles raisons. Mais bien souvent, c'est ça le pain point. On va sortir toute une série d'articles là-dessus. Qu'est-ce qu'un fonds impact? Faut-il lever des fonds? Quel type de fonds? Quel type d'enveloppe? Et surtout, quelle est la finalité? Parce que bon, on est revenu un petit peu de l'ère de il y a plein d'argent dans les caisses et puis tout le monde lève des fonds à tour de bras, surtout la tech. Mais on sait que globalement, il y a 90% des boîtes qui se cassent la figure. Et donc, c'est intéressant, je pense, d'avoir un petit peu ce warning au départ qui fait que les gens qui nous écoutent, qui peut-être lancent des marques ou développent des marques, s'intéresseront à ce sujet avec un autre prisme. Parce que c'est cool d'avoir des exemples de bootstrap, enfin, tu vois, de boîtes comme vous qui font que ça fonctionne par... granularité, on va dire, hein, par palier. C'est aussi un gros effort de patience. Et là où je suis aussi très curieuse, c'est dans, finalement, peut-être la notion plus philosophique ou plus de paradigme. Vous avez fait des écoles de commerce ou de la finance. Moi, je n'ai pas fait ce parcours, mais il me semble que les gens de ma génération, qui est probablement la tienne, Samy, ont infusé dans ces notions d'hypercroissance, de rythme débridé, finalement de scalabilité à l'infini. Et vous, tu n'as pas ça, tes associés n'ont pas ça, tu vois, c'est un mindset qui aujourd'hui est hyper rare et qui finalement est aussi une figure d'exemplarité et de soutenabilité dans un monde intermédiaire entre la post-croissance dont on parle mais on ne sait pas trop comment y aller et l'hyper-croissance qui n'est pas pérenne en fait. Donc est-ce que tu saurais expliquer tu vois, pourquoi est-ce que vous faites ce choix de dire peut-être qu'on gagne X et on n'a pas besoin de X, Y, Z même dans 10 ans, où l'objectif, ce n'est pas de revendre 300 millions notre entreprise ou 50 dans 20 ans. Enfin, est-ce que tu saurais dire d'où viennent ces valeurs chez vous?
Écoute, on n'aime pas trop le bullshit. Nous, chez nous, on a un bouton sur le bureau. Dès que quelqu'un commence à raconter n'importe quoi, on appuie dessus. Donc, je vais essayer de ne pas en faire. Mais écoute, sincèrement, en fait, on aime bien... le plus important pour nous, c'est quand même la qualité au travail, le fait d'aimer ce qu'on fait et pas simplement ce que ça rapporte. Donc, ça paraît bête, mais voilà. C'est quand même important de travailler dans des conditions qui nous plaisent, de développer des choses qui nous intéressent, d'avoir un environnement intéressant. Enfin, et à un moment... c'est vrai qu'on avait l'impression que les seuls sujets qui intéressaient les médias, c'était combien ils ont levé, combien, et pas le produit, pas le travail qui est fourni, et plutôt, telle marque a levé 15 millions, telle marque a été vendue, je sais pas quoi. Ok, et même, je me souviens, je suis pas journaliste, mais j'avais écrit un article sur notre blog, Ast lève 0 million en 2015, parce que, en fait, on disait, si personne ne parle de nous, on fait des choses bien, il paraît que des marques ont levé des produits, et 3 ans plus tard, elles n'existent même plus, mais on s'est dit, en fait, il n'y a qu'un intérêt pour l'argent, en fait, ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils font, quoi. Et donc, nous, on s'est plus focalisé sur notre produit, et forcément, ça prend plus de temps que d'aller juste essayer de lever de l'argent pour aller plus vite et plus maîtriser ce qu'on fait, donc forcément pas toujours avoir un produit à la hauteur des exigences qu'on devrait avoir. Et c'est ce qui nous drive jusqu'ici, parce qu'on a réussi à grandir sereinement, avec toujours un bon climat de travail, pas d'embrouille entre associés, parce que l'argent n'est pas le seul moteur de notre travail, quoi. Tout simplement, c'est notre façon d'être. J'aurais pas forcément de... Et je sais aussi que... C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Attention, je critique pas du tout les levées. Je sais très bien que c'est difficile quand on se lance sans moyens de grandir. Et on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est très bien d'avoir des personnes qui soient là pour financer des jeunes créateurs ou des marques plus mûres et tout. Simplement, il ne faut pas que ça soit le seul moteur de son activité, quoi. Il faut se dire, attends, je vais développer une marque, je vais développer des produits qui sont bien. Il me faut des sous pour ça. C'est pas... Je vais développer des produits pour avoir des sous, quoi. Enfin, je sais pas, il faut voir les choses dans le bon sens, quoi. Et après, ça finit par marcher. Et c'est comme ça que chacune des marques finira par avoir plus de moyens pour ses ambitions.
Et surtout, chacune des marques prendra le temps de développer des choses de qualité et pas tous les matins qui finiront
exactement
à la décharge. J'imagine que c'est aussi une mise au diapason des gens que vous recrutez. Est-ce qu'il y a, tu vois, un process particulier? Parce que c'est vraiment un état d'esprit qui est aussi spécifique à la marque. Donc, est-ce que c'est un recrutement après un passage en stage, comme pour Fleur, pour être vraiment infusé dans cet ADN? Ou bien est-ce que vous avez sur ton process de recrutement, est-ce que tu as des choses à partager avec nous?
Il y a beaucoup de feeling. On juge pas que sur les compétences. Il faut que les personnes, elles adhèrent un peu aux valeurs, à la marque, qu'il y ait un état d'esprit, une envie de travailler, d'apprendre. Je vais pas prendre quelqu'un parce que c'est le meilleur. Je vais prendre quelqu'un parce qu'il va essayer de faire au mieux. Et parce que ça va me permettre de sentir que la personne est impliquée. Et depuis le début, c'est un peu ça. Voilà. On a des personnes au bureau souvent qui restent, il n'y a pas beaucoup de turnover. Fleur arrive en stage, on en a d'autres au bureau qui sont arrivés en stage, qui sont partis, qui sont revenus. Donc c'est ce qui nous dit que c'est la bonne façon de recruter. Mais on n'a pas de process pur et dur, hein, parce qu'on est assez flexible. C'est vraiment l'envie de se dépasser pour la marque, pour des valeurs, pour des... parce qu'on aime le produit, parce que voilà, c'est vraiment... Après, je laisse peut-être Fleur, en tant que personne de l'équipe, donner son opinion. Je ne me rends pas forcément compte, moi.
Non, mais c'est vrai. Et on a aussi tous une philosophie qui est commune. On a, on va dire, une vision qui est commune sur les marques, sur les produits qu'on souhaite développer, sur la manière de faire aussi pour la commercialisation. On est tous raccord de ce point de vue-là aussi. Et c'est ce qui fait finalement notre force, parce qu'on va tous... on travaille tous pour la même cause, finalement.
Et je pense que ce que les personnes au bureau aiment bien, et même en boutique, c'est qu'on les implique sur beaucoup de choses. C'est pas vraiment segmenté. Toi, tu fais ça et tu donnes pas ton avis sur le reste. Chacun... pourra participer. Alors, même si on grandit, alors ça peut pas être des réunions où tout le monde est impliqué, mais en tout cas, tout le monde voit la collection, tout le monde peut dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Pour la com, quelqu'un qui travaille dans un truc qui a aucun rapport peut dire ça pourrait être marrant de faire ça, j'ai vu ça chez telle marque, c'est une bonne idée. Donc, c'est ce que les gens aiment bien aussi, c'est que on peut intervenir sur tout et ça permet de s'enrichir professionnellement, de pas uniquement être bloqué sur une tâche, quoi.
Ce qui est hyper cool, c'est que en fait, il y a énormément de bon sens, hein, globalement, de bon sens, de discrétion, de rapport au temps maîtrisé, de volonté de faire de la qualité, etc. Enfin, et tout ça, ce qui émane de cette discussion, c'est que finalement, tous tes critères ESG, ta stratégie RSE, donc qui comprend le social, l'environnemental, la gouvernance, qui du coup se répercute sur ta marque employeur, la fidélisation de tes équipes, mais aussi ce que tu diffuses en tant que message à tes clients. En fait, quand tu fais les choses bien et de façon sereine, tu n'as pas besoin de floutage marketing ou d'élaborer des stratégies compliquées qui viennent rectifier un process presque pathologique au départ. Enfin, on a la sensation qu'il y a énormément de taf que vous fournissez, mais que globalement, la croissance organique, c'est une réponse pour des sujets à 360 degrés. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Ouais, c'est bien résumé.
Vous avez, tu l'as dit, votre communauté, elle a grandi et pris de l'âge avec vous. Et j'imagine que les aspirations, donc esthétiques, on en a parlé un petit peu, mais aussi en termes de valeurs, de quête de plus de transparence avec toute la vacuité de ce mot, mais de vraie transparence, ont changé. Aujourd'hui, c'est quoi votre rapport à la communauté et qu'est-ce qu'ils demandent en 2023 qu'ils ne demandaient pas aux prémices de la marque ?
Alors, on a une clientèle qui est de plus en plus informée qui s'y intéresse aussi. On a des clients qui demandent d'où vient la laine de mon pull, où a été tissée telle toile pour ma veste. On sent vraiment que les clients veulent des informations, ils en raffolent, parce qu'ils ont envie de consommer mieux, parce qu'il y a vraiment une volonté derrière de mieux faire, de changer ses habitudes, Et du coup, c'est là où nous, on intervient en tant que marque. On a un rôle aussi de partage d'informations, de sensibilisation. On essaie aussi de leur apprendre à travers toutes les newsletters, les articles qui sont présents sur le site, de multiples informations sur les matières, sur les produits et aussi les méthodes de faire. Et aussi sur la fin de vie des produits, comment réparer son produit, comment le recycler. Et voilà.
Est-ce que tu peux, ça m'intéresse sur la partie fin de vie du produit. Vous avez mis des choses en place spécifiquement. Comment est-ce que du coup tu fais se rejoindre leurs aspirations et vos supports de communication? Tu as parlé de la newsletter, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu, tu vois, le rythme, le type de contenu, aller un peu plus en profondeur dans...
Alors, sur tout ce qui est contenu, ça, c'est plutôt Samy, c'est plutôt sa partie. Après, sur la fin de vie des produits, déjà en amont, quand on développe une collection, quand on la pense, on pense déjà aussi à sa fin de vie, parce qu'à un moment donné, le produit va être amené à disparaître, peut-être 10 ans, 15 ans après. Donc déjà, on essaie de limiter tout ce qui est fourniture sur les produits. Parce qu'on sait qu'un produit, par exemple un jean avec 15 zips, va être plus compliqué à être recyclé après. Aussi en termes de matière, on sait qu'une matière qui est dite monomatière, donc 100% coton ou 100% laine, sera plus facile aussi à recycler, en évitant bien entendu les matières synthétiques. Et enfin, en termes de vraiment recyclage, on essaie de faciliter la chose à notre clientèle. On avait essayé de mettre des bornes de recyclage en boutique, où les clients les déposaient, enfin déposaient leurs vêtements usagés qui n'avaient vraiment plus aucune utilité. Et ensuite, on se chargeait de les recycler. Donc ça, on a eu un gros projet là-dessus. Mmh. On essaie de le relancer aujourd'hui pour...
Tu parles passé.
Parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'à notre échelle, finalement, c'était assez compliqué de récolter des tonnes de pièces pour pouvoir ensuite les déchirer, les effiler pour en refaire de la matière derrière. Donc aujourd'hui, on les accepte toujours, bien entendu, et on les amène nous-mêmes dans des bornes de recyclage.
Mais aussi, on a été confrontés au fait que c'est pas encore mûr. Le recyclage, parce que par exemple on a du textile, parce qu'on a voulu documenter un peu tout le process, on a voulu aller filmer toutes les étapes, on a eu des barrières, non c'est pas possible de venir voir ici, c'est pas possible on s'est dit pourquoi c'est vertueux normalement, et donc il y a pas mal, je peux pas aller plus dans les détails parce que c'est pas moi qui ai bossé sur tout le projet, mais je sais qu'on nous a fermé des portes, on pouvait pas aller voir, on s'est dit bon, c'est bizarre parce que si on peut pas aller vérifier, contrôler, c'est qu'il y a peut-être des choses qui se passent pas comme on veut. Donc, du coup, on n'a pas non plus trop poussé parce que c'était un gros coup pour nous. Et on a compris que c'était quelque chose qu'il fallait encore faire mûrir parce que c'est pas...
Ouais, c'est quand même une partie qui est assez, finalement, secrète, si on peut dire. Après, pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, de solutions de services qui permettent de récolter les vêtements en boutique. Donc, ce sont des collaborations avec des partenaires. Et ensuite, ils se chargent de toute la partie recyclage. Donc, ça reste possible.
C'est possible, mais il y a encore du travail. Il y a encore du boulot. Et nous, à notre échelle, il faudrait faire un collectif de marques ou autre. À notre échelle, on n'avait pas encore les possibilités financières d'aller plus loin. On a proposé, on a enclenché la démarche. Maintenant, il faudra aller plus loin concrètement plus tard. Il faut qu'on trouve des solutions.
Et aussi d'un point de vue logistique, parce que ça inclut une flotte de camions qui vient récupérer les pièces, qui va les stocker, et ensuite de la main-d'œuvre.
Ouais. Ça aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup de le partager honnêtement, parce que la maturité des filières du recyclage en France, c'est un sujet qui est bien souvent un espèce d'étendard écolo pour beaucoup de marques, alors qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fond dans les propos, notamment parce que technologiquement, c'est hyper compliqué en termes de gisement. Quand je dis technologiquement, c'est pour trier la matière efficacement autrement qu'à la main, pour, tu l'as dit, défibrer des vêtements qui sont blendés la plupart du temps avec des matières pétrochimiques qui se recyclent mal ou pas bien. Ou alors en matière de piètre qualité. Et du coup, je trouve que ça fait du sens dans cette rétroaction que vous avez faite aussi de communiquer auprès de vos clients pour insister sur l'importance de l'éco-conception qui est votre job, mais la durabilité de la relation à son vêtement qui est le leur. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et c'est encore plus chouette de savoir que économiquement, c'est pérenne parce que les gens reviennent malgré tout, vous achetez des produits. Mais c'est vrai que, oui, globalement, le fait que des solutions de collecte des différents gisements, malheureusement, je pense, n'ont pas beaucoup plus de visibilité sur la suite des événements. Et il y a encore une majeure partie d'export.
Il y a beaucoup d'export.
À l'international, c'est un sujet chaud. Vous avez fait il y a quelques années, Samy, tu peux nous en parler parce que c'est donc ta responsabilité, la com et le marketing, quand même un petit shift dans justement la manière de parler de la marque, le fait de vous présenter. Historiquement, vous avez une culture de la discrétion qui était quand même importante, qui faisait partie de l'ADN de la marque. Et il me semble qu'il y a 2 ans, peut-être un peu plus, vous avez commencé à faire des capsules vidéo, à montrer un peu plus qui était l'homme Ast. Aujourd'hui, il y a des profils ultra divers dans vos shootings. Donc, je veux bien que tu nous racontes un peu ce cheminement et ce que ça vous a apporté.
Oui, alors c'est clair que... Alors, je ne dirais pas discret, mais on va dire honnête, c'est le mot qu'on a bien employé. Non, mais oui, on est plutôt discret. On n'aime pas trop en faire. L'idée, c'est de grandir, comme je disais tout à l'heure, doucement mais sûrement. Donc, on n'a pas voulu sauter les étapes. Alors, au début, on fait partie de la première génération de DNVB, des marques qui sont nées sur Internet. Et au début, forcément, notre positionnement était plutôt axé sur le rapport qualité-prix. Sauf qu'en développant nos produits, y a quand même quelque chose qui prend le dessus, c'est aussi le style. Parce que pour vendre un vêtement, c'est pas uniquement du rapport qualité-prix, c'est la qualité dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les personnes l'achètent aussi parce qu'elles l'aiment, elles le trouvent beau, et c'est ça qui rend le produit durable. C'est parce que si je fais quelque chose d'hyper qualitatif mais que personne n'achète parce que ça ne nous plaît pas, que ça ressemble à rien, forcément ça n'a pas trop d'intérêt. Donc du coup, on a plus travaillé sur ça, sur cette désirabilité qu'il fallait apporter, en plus de toujours ce qu'on a dans l'ADN, c'est-à-dire l'accessibilité, le prix et la durabilité. On voulait rajouter cette désirabilité. Et donc, on a rajouté ça sur le travail, sur la DA de nos shootings, sur le stylisme, sur notre discours, parce que c'est vrai qu'on voulait que notre base de clients, nos abonnés, nos fans, achètent aussi la marque et pas seulement le produit qui avait un bon prix. On a vraiment beaucoup bossé sur ça. Et donc, notre objectif, c'était vraiment de proposer des vêtements d'exception pour le quotidien. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on fait quelque chose d'exceptionnel, mais qu'on peut porter tous les jours. Et parce que cette qualité, dans cette gamme de prix, bah, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver partout. Et donc on a beaucoup travaillé sur ça, avec un styliste, avec des photographes, pour rajouter ce grain d'ajouter un peu plus d'envie pour le client d'acheter la marque. Et c'est ce qui s'est produit depuis 2 ans parce que ouais, on a vraiment une identité plus marquée, on nous reconnaît plus facilement. Et aussi, on a voulu aussi essayer de se différencier parce qu'il y a tellement de marques qui sont créées qui n'a pas forcément de valeur ajoutée parfois. Et du coup, le client n'arrive plus à se repérer sur le marché. On a quand même voulu montrer que chez As, ça fait 10 ans qu'on fait ça, ça fait 10 ans qu'on fait les choses bien et qu'ils ne seront pas déçus de continuer à acheter chez nous. Donc, on a beaucoup bossé sur ça depuis 2 ans. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter.
Non, pas particulièrement.
Et les retombées de cette strate, du coup ?
Ouais.
Vous avez ouvert, tu vois, la base client, vous êtes adressé à d'autres... Parce qu'il y a quand même... Je parlais de la diversité dans les shootings. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont plus de 50 ans, ou j'imagine, quoi, en tout cas, dans la représentation de la marque, tout simplement. Tu vois, est-ce que ça a porté ses fruits et à qui vous vous êtes ouvert avec ce repositionnement ?
Alors, pour le coup, dès notre premier shooting, il y avait déjà un homme de 77 ans. Donc, on a toujours voulu... bien sûr, on a un cœur de cible qui est, comme je le disais, entre 30 et 40 ans. Mais l'idée, c'était de montrer que c'était... c'était une marque pour tous, quoi. Dès qu'on peut porter une chemise, à 18 ans jusqu'à la fin de sa vie, on peut porter des chemises, donc on n'essaie pas de cibler quelqu'un en particulier. Ce positionnement, par contre, il permet aussi de justifier notre gamme de prix plus large, parce que forcément, quand on propose des vestes, on va proposer bientôt des manteaux. Nos clients de base qui étaient venus pour des chemises plus accessibles à moins de 70 euros, ils s'attendent à quelque chose de peut-être un peu plus recherché d'un point de vue image qu'un pack shot, quoi. Sincèrement, tout au début, c'était ça. Donc, du coup, il fallait les moyens supplémentaires pour être encore plus désirable. Et donc, du coup, maintenant, on a vraiment réussi à attirer une nouvelle clientèle qui ne connaissait pas la marque. Parce que malgré 11 années d'existence, on a encore plein d'hommes qui n'ont pas encore la chance de connaître As. Donc, j'espère que ça nous permettra de nous faire connaître encore plus.
Alors, tout à l'heure, on va se recentrer un petit peu plus sur le produit aujourd'hui et notamment tous les enjeux de réglementation dont on a parlé. Mais tu as dit... Quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous vous étiez disputé encore cet après-midi, je dis ça avec des guillemets bien sûr, au sujet d'un produit qui ne correspondait pas aux valeurs de la marque pour certains, et j'imagine que oui pour d'autres. Finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les valeurs de la marque qui doivent être associées à...
Alors, ce n'était pas une question de valeur. Hein.
J'ai mal compris.
C'était un point de vue style et du coup, vente.
Alors, on va dire aux valeurs esthétiques, ouais. Ça fonctionne aussi.
Aux valeurs esthétiques, oui. En fait, aujourd'hui, le gros challenge, donc, c'est de continuer à travailler avec des matières 100% naturelles, d'élargir le vestiaire de produits. Et parfois, effectivement, on a des contraintes techniques. Donc, faire un pull en 100% lin, ça peut être compliqué. Ça peut donner un pull qui n'a aucune tenue. Donc là, en l'occurrence, le sujet était sur un pull en 88% lin et le reste en coton. Et c'est vrai que d'un point de vue stylistique, c'est assez rustique. Ça n'a pas forcément la main qu'on cherche quand on achète un pull, même un pull d'été. Et donc, le tombé ne plaît pas à tout le monde. Mais ça reste stylistique. Et...
C'est pas encore fini. non, mais pour être honnête, c'est parce qu'on ne veut pas lancer un produit. Pour que ça soit durable, il faut que le produit plaise. Il ne faut pas qu'il reste 10 ans en stock chez nous. L'idée, c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les quantités. Donc nous, on essaie d'être au plus juste possible. Donc il y a beaucoup de travail pour être sûr de proposer vraiment ce que nos clients attendent. Et on n'a pas la solution. Tiens, tout est à moins 50 2 semaines plus tard pour tout liquider. Nous, le principe n'est pas là. Le principe, c'est de faire vraiment quelque chose qui va plaire et à un prix qui sera accessible. Et avec une qualité, comme je disais, toujours hyper élevée. Donc, on ne peut pas se permettre de tout liquider comme le font certains. Donc, ce n'est pas le principe chez nous. Donc, il y a deux fois plus de travail sur la recherche produit.
Et un produit qui sera aussi intemporel, ouais. Qui va passer les années, les saisonnalités et les tendances.
Vous avez fait ma transition au sujet à la fois de la traçabilité en parlant du lin et on va parler de votre travail sur la fiche environnementale et aussi sur les invendus. Peut-être qu'on peut commencer rapidement par les invendus. Est-ce que vous avez beaucoup cette problématique des stocks et qu'est-ce que vous avez mis en place, si oui, pour y remédier ?
Alors, déjà dans la philosophie de Ast, on produit de manière raisonnée. Donc, forcément, tous les volumes sont étudiés en avance. Donc, en fin de saison, généralement, si tout se passe bien, on n'a pas forcément beaucoup d'invendus. Pour autant, et ça c'est inhérent à l'activité, au bout de 10 ans, parfois on a quelques pièces invendues. Et donc il faut trouver des manières de s'en séparer, parce que c'est du stockage, parce que c'est un coût derrière. Donc on fait des dons à des associations, l'association AIDS. On travaille aussi beaucoup avec la Cravate Solidaire, qui aide des personnes en recherche d'emploi qui se remettent au goût du jour d'un point de vue stylistique. Ça leur apporte aussi de la confiance pour passer des entretiens. Donc ça, on le fait généralement une fois par an, au moment des fêtes. Et ensuite...
On a eu l'occasion de faire une braderie là, récemment, justement, parce qu'en 11 ans, on en a fait une. Mais parce que c'était... ça peut être des prototypes, des fins de série, qu'on a changé les coupes. Donc, c'est très compliqué de mettre deux produits identiques avec des coupes différentes en vente. Donc, voilà, on a, au bout de 11 ans d'activité, on avait une certaine quantité de produits dont il fallait se séparer et permettre à des personnes de se les procurer. Donc, on a fait ça. Mais l'enjeu, il est vraiment en amont pour nous parce qu'on essaie, on essaie vraiment de faire des quantités maîtrisées, comme dit
Fleur. De produire au plus juste.
On est souvent en rupture de stock et on est sur un flux tendu. Bah, du coup, on n'est pas forcément... On vend peut-être pas autant qu'on pourrait, mais en même temps, on finit jamais avec trop de produits à la fin de chaque collection.
Et là, tu vois, on revient à une logique hyper vertueuse d'équilibre, hein, parce que plutôt que de se creuser la tête à essayer de trouver des solutions pour mettre de l'outlet ici, de la seconde main là, ou des pièces en déstockage à des tarifs qui cassent, en fait, la légitimité de vos prix le reste de l'année, sans parler des coûts logistiques et de stockage, produire la juste quantité, c'est vertueux dans tous les sens du terme. Le biais de rareté, moi je trouve ça intéressant. Enfin, le fait de te dire que tu t'assois sur les 3-4% que tu aurais pu vendre en plus, je pense que tu te retrouves par rapport à ce que tu n'aurais pas vendu. Et je fais une mini digression, mais on est partenaire de AIDS, la prochaine braderie qu'ils organisent en décembre pour les 30 ans de l'association, donc de lutte contre le sida. Et ils cherchent à cette occasion des marques typiquement qui ont des dons à faire pour cette braderie. Donc, n'hésitez pas à les contacter de notre part sur Instagram ou sur leur site web. Voilà, on sera présent sur l'événement. Digression terminée. Au sujet de la traçabilité, donc on vous avait évoqué le lin parce que donc c'est un travail que vous avez fait en préliminaire donc sur le PEF, si je ne dis pas de bêtises, avec la CELC qui aujourd'hui s'appelle Alliance for European Flax, Linen and Hemp. Je ne pensais pas l'avoir de tête. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment ça s'est passé ? Parce que je crois que ça fait 2 ans que vous avez été onboardé sur un projet de mesure alternative de l'affichage environnemental des produits avec cette alliance.
Oui. Alors, en tant que marque, du coup, qui est engagée, qui souhaite faire bien les choses en termes de production et de produits, et en tant que marque qui utilise aussi beaucoup le lin et ce, sur toutes les saisons, parce que là, aujourd'hui, on essaie vraiment d'utiliser le lin aussi en hiver. Après, ça, c'est un autre sujet. Il faut sensibiliser les clients au fait de porter du lin en plein hiver alors qu'on pense que le lin est fait que pour l'été. Mais donc, effectivement, on a été sollicité par la Confédération pour intégrer un groupe de travail. Groupe de travail qui décomposait toute la chaîne de valeur de production du lin. Donc, on a travaillé avec des agriculteurs, avec des filateurs, avec des tisseurs et aussi donc avec... d'autres marques, en l'occurrence Armand Luxe avec laquelle on a fait une collaboration, une capsule. Et là, l'objectif, c'était vraiment de mettre sur la table l'ensemble des sujets auxquels on était confrontés au quotidien, savoir déjà récolter des informations en termes de traçabilité sur les lieux de confection, savoir aussi, du coup, les mettre sous la forme d'un même langage, pour qu'on puisse aussi les transmettre d'un point de vue vraiment formel sur des plateformes, sur de la documentation, tout bêtement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur une chaîne de production, je ne sais pas, il y a peut-être 15 acteurs. Et en fait, chaque acteur va avoir son propre langage. Donc, le gros travail de la législation et des solutions de traçabilité, c'est de mettre à plat toutes ces informations pour qu'elles soient assimilées par chacun, pour qu'elles soient après transmises. Et le gros travail aussi sur le lin, en l'occurrence, c'était qu'aujourd'hui, le lin, c'est une matière qui est européenne et qui est beaucoup exportée en Asie pour toutes les étapes de finition, de nettoyage, de filage aussi. Et là, en l'occurrence, avec la Confédération, l'objectif, c'est vraiment de revaloriser cette matière et de faire en sorte qu'elle reste en Europe. Et c'est là tout l'intérêt de la traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, en tant que marque, en tant que responsable de collection, styliste ou autre, lorsqu'on sélectionne des matières, on n'a pas forcément accès aux informations de traçabilité en amont. Donc aujourd'hui, ça repose beaucoup sur une relation de confiance avec nos fournisseurs. On sait que, par exemple, le fournisseur n'a qu'une seule usine en Italie, donc on sait que la matière va être faite en Italie. Mais demain, on aimerait avoir justement les informations en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Pour aussi mieux sélectionner ces matières.
En pratique, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment très concrètement donc, comment étaient organisés les groupes de travail, à qui incombait la responsabilité d'aller chercher des informations sur la chaîne d'appro ou sur la chaîne de valeur ensuite? Et quels ont été les enseignements que vous en avez tirés au quotidien pour la traçabilité de vos produits?
Eh bien, on a d'abord audité plusieurs solutions de traçabilité. Donc, il y a eu un vote de l'ensemble de la chaîne de production, donc pour le lin, en l'occurrence. On s'est orienté sur une solution de traçabilité qu'on a mis en expérience, on l'a testée, sur un produit, donc sur une qualité de matière, sur un lin, en l'occurrence, qui est fourni par un de nos fournisseurs historiques de Ast. Et finalement, si je puis dire, la méthode qui est recommandée par la solution de traçabilité est assez commune à celle qu'on a toujours eue chez Ast, où nous, on a toujours eu l'habitude de décomposer la chaîne en se disant d'où vient la matière, où est-ce qu'elle est filée, où est-ce qu'elle est tissée, teinte et finie, et jusqu'à l'étape de confection. Et c'est finalement ce qu'aujourd'hui les solutions de traçabilité proposent, avec bien entendu des calculs d'impact environnemental comme le CO2, comme la pollution des eaux. Mais finalement, nous, en interne, ça n'a pas révolutionné notre méthode, si je puis dire.
Non, mais ce que nous avons remarqué particulièrement, c'est quand même pour la matière première, c'est là où c'est le plus difficile, parce que jusque-là, les autres étapes, on arrivait à avoir des informations et on arrivait à les communiquer à nos clients. Par contre, la matière première, c'est quelque chose de différent, parce que souvent, c'est des ballots qui sont achetés par l'atelier, qui sont mélangés. Donc, en fait, c'est très compliqué de connaître l'origine exacte de la matière première. Par contre, c'est pour ça qu'on a travaillé avec la CELC et le lin, qui, lui, est produit en France, ou en tout cas en Europe du Nord, ce qui permettait vraiment d'aller de savoir exactement dans quel champ le lin avait été planté, alors que pour les autres matières premières, particulièrement le coton, c'était beaucoup plus compliqué. Et ce travail, il a été fait sur le lin. L'idée, c'était de pouvoir dire voilà où a été récolté ce lin et comment et quelles étapes il a passé avant d'arriver dans votre chemise ou dans votre pantalon ou veste ou robe. Et c'est ce travail qui a été fait. Maintenant, l'objectif, c'est peut-être un jour de réussir à le faire sur les autres matières. Mais sauf que c'est beaucoup plus mondialisé, beaucoup plus difficile. Et on s'est rendu compte que ça nécessitait énormément de moyens. Mais en tout cas, c'est déjà une première pierre à l'édifice. Et j'espère qu'on pourra aller plus loin à ce niveau-là.
Donc, à côté de cette solution de traçabilité, vous avez récupéré aussi des ACV. Enfin, tu parlais d'impact environnemental. C'était quoi? Sur la matière finie avant qu'elle soit travaillée? Sur les produits finis? Ça concernait quoi?
En fait, nous, on a fait un calcul du bilan carbone On n'a pas fait l'ACV encore, donc on a vraiment l'impact CO2 de chaque produit qui a été fait donc, sur les trois scopes. Donc vraiment de la matière première, la fabrication du produit, sa distribution, puis jusqu'à sa distribution et même au travail de l'entreprise, de l'équipe. Tout ça a été analysé. On avait travaillé avec Utopie, une agence spécialisée dans ça, une des premières agences à proposer vraiment un suivi à ce niveau-là. Donc on avait fait ce calcul sur tous les produits. On continue à suivre ça de près pour chacun de nos produits, tous les produits qu'on distribue. Après, l'ACV, ça rajoute la fin de vie du produit. Et ça, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a fait, pour être honnête, mais on va y travailler. C'est une question de temps et de moyens. Mais en tout cas, on sait que tout le reste chez nous est bien fait. Et comme j'essaie de le dire depuis le début, on essaie de faire doucement et sûrement et de ne pas faire n'importe quoi, ni de bullshit. Donc, on essaie de faire quand on est sûr du résultat et qu'on ne donne pas des mauvaises informations aux clients. Donc, je sais que Flore est en train de travailler dessus avec le reste de l'équipe et qu'on sera prêt rapidement, j'espère. Mais en tout cas, on est prêt sur tout le reste.
Oui, en 2025, de toute façon, pour
la
mise en action de l'affichage environnemental. Tu parlais des coûts. Ça demandait donc du temps et des moyens, de l'expertise. Qui aujourd'hui supporte ces coûts en pratique? Par exemple, si vous voulez afficher un score ACV, fin d'affichage pour l'ensemble de vos produits en 2025, est-ce que vous allez répartir ces coûts sur l'ensemble de la chaîne de valeur? Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos partenaires de confection? Ou est-ce que pour l'instant, vous considérez que c'est à la marque de l'absorber? Et si oui, j'imagine que ça va avoir une répercussion sur le coût final des produits.
En fait, nous, ces coûts, on les absorbe déjà depuis longtemps. Comme on fait déjà un travail d'audit, de recherche des matières, on essaie de donner un maximum d'infos sans avoir eu de législation jusqu'ici. On n'a pas attendu que ça soit obligatoire pour communiquer un maximum d'infos aux clients et faire toutes ces recherches et se poser ces questions. Donc, pour le coup, il sera pas beaucoup plus important pour nous parce qu'on fait déjà ce travail. On affichait déjà beaucoup de choses sur notre site. On peut avoir plein d'informations. Et d'ailleurs, on les donne dès que quelqu'un nous les demande. Donc, parce qu'on les a déjà et que simplement la façon de les communiquer, ça, c'est effectivement peut-être un nouveau coût qu'il faudra mettre en place sur le site. Mais ça sera forcément pris en charge par nous parce que, comme je le disais, on fait déjà l'essentiel du boulot et qu'il y aura pas de répercussions sur le produit, c'est sûr.
Et c'est un exercice que vous avez déjà fait, puisqu'il me semble que cette année, qui est une année tendue pour toutes les marques de mode et celle d'une augmentation globale du coût de l'énergie, des matières premières, du transport, qui nécessairement se répercute sur les prix, surtout quand on n'a pas une logique de production à très gros volume. Est-ce que ça a été votre cas? Donc, est-ce que vous avez dû modifier vos prix? Et comment est-ce que vous l'avez expliqué à vos clients? Comment ça a été reçu?
Oui, on a augmenté nos prix, mais de manière proportionnelle à l'augmentation de nos coûts. Et ça, on l'a fait de manière très transparente parce que début 2022, on avait écrit un article pour expliquer à nos clients plusieurs mois avant que nos prix allaient augmenter. Comme nos productions, elles se font bien à l'avance, on sait que les coûts, d'un coup, on a eu des très grandes surprises avec 20% d'augmentation sur certaines matières premières, sur les coûts de confection. Très en amont, on a dit aux clients, voilà, on vous prévient. On sait que vous êtes habitué à tel type de prix, et ils vont prendre 15-20% parce que simplement nous on n'a pas le choix, étant donné que nos marges sont vraiment faibles par rapport au reste du marché, forcément on est obligé d'impacter ça sur le client. Mais ça a été très bien pris parce qu'on reste encore hyper compétitif et que comme on est assez. C'est pas une augmentation soudaine, toutes les marques à côté de nous et qui ont des marges plus importantes ont augmenté leur prix, donc forcément leur prix a encore plus augmenté que le nôtre. En fait, c'est passé inaperçu sur le marché parce qu'on reste hyper compétitif.
Donc on sent qu'il y a quand même un vrai effort de pédagogie constant, on l'a dit sur différents supports, la news, etc. Il va y avoir un sujet sur l'affichage environnemental dont on a parlé, expliquer aux clients à quoi correspond la note ABCDE notamment. Et cette note est déjà l'objet de discussions animées, puisqu'elle n'est pas forcément juste entre les marques. Et notamment, elle peut parfois faire bénéficier les marques de fast fashion qui ont des produits durables parce que résistants, parce qu'en polyester, de notes meilleures que des produits qui sont faits plus localement et mieux. Vous avez déjà une expérience sur le sujet. Est-ce que vous avez, un positionnement et peut-être une critique positive et ou négative de la méthode actuelle à nous faire?
Oui, ça forcément, comme toute méthode innovante, ça crée un débat sur son intérêt, sur sa mise en pratique. Et il y a des points positifs parce qu'il y a déjà la sensibilisation et l'éducation des clients. Donc en fait, déjà le fait de mettre ça dans le débat public, bah, ça permet aux personnes de se poser la question. Donc ça, c'est important. Ça sensibilise les consommateurs, les incite à réfléchir davantage. Après, il y a le côté transparence. Bah, ça affiche clairement certaines informations de manière obligatoire et sur les impacts environnementaux. Donc je trouve ça intéressant d'obliger certaines marques qui ne le faisaient pas forcément à le faire. Et de donner ces informations au grand public. Ça pousse les entreprises à innover, à améliorer constamment leur processus. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête et pour réduire les empreintes environnementales. Après, sur l'aspect négatif, je sais qu'il y a un problème dans la nature déclarative de certaines choses. Donc, je sais qu'on se posait la question avec Flore parce que...
Oui, des informations communiquées et annoncées par les marques et qui, finalement, ne sont pas forcément vérifiées ni auditées derrière. Donc, ça peut poser un souci, effectivement.
Et il y a un aspect de vérification qui peut être complexe. J'attends de voir la mise en pratique réelle, comment les choses vont être vérifiées. Comme quand les marques annoncent que c'est Made in Europe, Made in France, je me rends compte que parfois il y a tellement de fausses informations qui sont communiquées. J'attends de voir dans quelle mesure ça ne sera pas juste un argument marketing des marques, mais qu'en fait en creusant, il y a beaucoup de vent. Donc j'attends de voir vraiment la réelle mise en pratique et quand ça sera vraiment vérifié.
Ouais, et puis voilà. Les sanctions éventuellement appliquées en cas de fausses allégations. C'est vrai que jusqu'ici, il y a un principe de démonstration requise, mais de présomption de bien faire et de démonstration requise en cas de contrôle aléatoire. Mais ce n'est pas prévu de façon systématique.
Oui.
Ok. Est-ce que... avec tout ce qu'on s'est dit, pour vous, les engagements de la marque... vraiment à 360 degrés, sont, avec le recul, un facteur de compétitivité. Qu'est-ce que tu penses quels sont peut-être vraiment les points forts qui font qu'aujourd'hui, la marque, elle va bien et qu'elle est pérenne malgré toutes les tempêtes qu'on a pu évoquer?
Oui, je pense, même si pour moi, ce n'est pas l'argument principal. On n'a jamais voulu dire, achetez-nous parce qu'on est une marque. Pour nous, ça devrait être la base, ça, en fait. J'espère qu'un jour, ça ne sera plus un argument de compétitivité parce que toutes les marques devront s'imposer certaines contraintes liées à l'environnement, liées à la production, liées à plein de choses. Et du coup, je pense que ça l'est encore actuellement parce que il y a encore beaucoup d'acteurs dont tu parlais tout à l'heure d'ultra fast fashion qui se posent pas du tout la question. Et plus il y aura d'éducation, de transparence, plus les consommateurs seront intéressés par ce sujet et plus ils se tourneront vers des marques comme nous. Mais et plus ça sera un facteur compétitif. Mais je pense qu'il y a encore du travail, sincèrement, parce que parfois je suis vraiment surpris par le comportement des consommateurs, justement quand je vois la réussite de ce genre de marque, alors qu'on était en plein débat sur la mode et sur son impact écologique et qu'il y a des marques qui explosent alors que c'est totalement l'inverse, ça m'a quand même vraiment surpris. Mais j'espère que sur le long terme, plus il y aura de médias comme le vôtre, plus il y aura de marques comme la nôtre, plus les clients finaux iront vers les bons acteurs.
D'autant plus fou qu'une étude récente est sortie qu'on avait partagée sur la client type présumée de la marque Chine, qui est au final de moins en moins l'adolescente qui suit la tendance sur TikTok, mais de plus en plus des femmes et des hommes qui ont plus de 30 ans et un certain pouvoir d'achat et un certain niveau d'éducation. Donc le travail de sensibilisation, il est vraiment fondamental, en plus des pénalités évidemment.
C'est pour ça qu'il faut rien lâcher, parce qu'il faut pas croire que c'est gagné, parce que pourtant c'était à une époque où ça avançait dans le bon sens et on a l'impression qu'il faut tout recommencer, mais non, je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut continuer dans cette voie et qu'on de toute manière c'est la seule voie possible pour la suite.
Est-ce que vous avez des velléités de renforcer vos engagements, par exemple en matière chaîne de production courte. Est-ce que vous voulez vraiment renforcer ce côté Made in Europe, voire Made in France? Et enfin, oui, non. Et puis, plus globalement, quel est le futur qui se dessine pour la marque dans les années à venir?
Pas de changement prévu en termes de localisation pour la production AST. On restera en Europe. Après, bien entendu, si on a des partenaires en France qui peuvent entrer dans nos contraintes budgétaires, bien entendu, on peut s'orienter vers des choix en France.
Et on ira là où sont les meilleurs savoir-faire.
Ouais.
Made in Europe, c'est pas forcément toujours un gage de qualité. Il faut quand même bien travailler parce qu'on a des ateliers en Europe qui nous font des... Enfin, pas toujours du super bon travail, il faut être honnête. Donc, il faut quand même faire des prototypes, rechercher les bons ateliers. C'est ce qui fera qu'on sera fiers de lancer certains produits. C'est pas toujours la seule... c'est plutôt le savoir-faire en Europe, les bons ateliers. Et oui, pour l'instant, on continue à ce niveau-là. Il n'y a pas de... raison de changer.
Et en termes de développement prévu, il y a des petites choses qu'on peut révéler. Enfin, les prochaines co ou les prochaines années, est-ce qu'il y a, je sais pas, vous avez envie de, je dis n'importe quoi, travailler le chanvre, la femme, on en a un peu parlé. Où va la marque?
Alors, où va la marque?
Et peut-être que la réponse est stand still et on continue à dévoile et ce sera très bien aussi.
Non, on continue la vague qui a été lancée lors des deux dernières collections. On va sur quelque chose qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus abouti. On pense vraiment aux détails. On a des gros travaux sur les couleurs. On les développe en partenariat avec nos ateliers. Donc, ce sont des couleurs exclusives à AST. On pense vraiment, on repense les intemporels. On essaie d'ajouter toujours un détail qui va faire que la pièce va se différencier des pièces des concurrents. Et on essaie aussi de beaucoup travailler sur les matières. C'est-à-dire que récemment, on a essayé de travailler sur les matières recyclées. On a fait un maillot de bain 100% recyclé cet été.
En sequel,
oui. On a fait des vestes de travail en laine recyclées également. On essaie vraiment de d'innover aussi et d'accompagner le changement dans nos gammes.
Oui, je rejoins Flore sur ça. Donc, on essaie de redonner le goût de bien s'habiller. C'est vraiment... et on n'est pas forcément dans le confort, la recherche de... on a envie que les gens aient le plaisir de porter des beaux vêtements avec des belles matières, bien coupées, et pas juste quelque chose de pratique. Et donc, c'est vraiment là le sujet en ce moment, c'est ne pas avoir besoin d'une occasion pour sortir des belles pièces qui vont durer, comme à l'époque où on était très content d'être en costume tous les jours et parce que ça nous faisait plaisir, ou en tout cas de mettre une belle veste, une belle chose, d'aimer le vêtement, pas simplement pour son côté pratique ou confortable. C'est sur ça qu'on bosse en ce moment.
On s'interrogeait récemment en réunion édito avec Coraline sur le qu'avons-nous fait de l'art sartorial et où est-il aujourd'hui? Qui le porte? Pourquoi y revenir? Faut-il y revenir? Après les hoodies à tout va et le gore-core et toutes les tendances micro qui ont été assez éphémères, finalement, qu'est-ce que ça veut dire bien s'habiller? D'après ce que j'entends, parce que je me méfie un petit peu des recettes toutes faites de c'est le code de la masculinité ou les codes du bien habillé, mais en tout cas, dans ce que j'entends de votre discours, c'est plutôt... des beaux vêtements qui sont bien faits, avec des coupes qui sont maîtrisées, avec des matières qualitatives, etc. etc. Et là, effectivement, je...
Oui, c'est plus ça qu'on va jouer. Sur quoi on va jouer, pardon, c'est vraiment la qualité des matières, la qualité de la coupe. Pas que sur les chemises. Donc là, on travaille... D'ailleurs, sur les nouvelles pièces, on travaille sur des super beaux manteaux avec des beaux draps de laine. Voilà, on bosse beaucoup sur le développement de vêtements de plus en plus travaillés.
Très cool. Hâte de voir ça. Est-ce que on peut boucler avant que je passe le micro pour les questions de clôture, mais avec une interrogation un peu Nostradamus, tu vois, mais est-ce que vous avez des prévisions, une intuition pour le futur de l'industrie dans une dizaine d'années, à quoi ça ressemble le paysage de la mode?
Bonne question, on en a parlé tout à l'heure. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, j'aurais pas dit que l'ultra fast fashion aurait cartonné, donc je vais pas me lancer dans le gouffre.
Mais... pas
Non, mais j'espère. On va dire que j'espère que seuls les acteurs qui ont pris les bonnes décisions sur, le, sur les engagements de durabilité, de proximité, de qualité des produits vont résister. Parce que la mode, c'est pas juste de la production, c'est aussi de la création, c'est aussi un art. Il ne faut pas voir toujours ça comme quelque chose d'inutile qu'on produit dans le vide et on pourrait remettre des vêtements qui existent déjà. C'est aussi un plaisir, quelque chose qu'on cultive avec joie. On est heureux de créer des choses. Sinon, il y a plein d'univers artistiques qu'on devrait aussi arrêter. Donc, il faut que la mode redevienne... reprenne ce côté créatif et que ça soit plus uniquement des productions en masse de vêtements qu'on doit changer tous les jours sans la recherche de sans passion, sans qualité des produits, sans matière durable. Voilà, je me répète un peu à ce niveau-là, mais j'espère que seules les marques qui miseront sur ce volet créatif, sur ce volet durable, résisteront dans les 10 prochaines années. Et même si je ne souhaite pas que les autres échouent, mais j'espère qu'elles prendront la bonne décision sur leurs engagements.
Ok, j'avais invoqué le dieu du wishful thinking et faire en sorte que tout ça soit entendu. Coralie, c'est à toi.
Merci. Est-ce que vous auriez un livre, un site, un podcast ou autre référence culturelle pour se cultiver sur la mode responsable ?
Alors, je sais que vous avez déjà fait un article sur ça, qui parlait de Conscious Closet, un livre que j'ai lu qui est très bien pour l'éducation, pour garder ses vêtements, bien les ranger, justement, qui explique comment faire en sorte que les vêtements soient durables. C'est hyper intéressant comme vision.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast ?
Alors, c'est... Moi, je m'étais noté, et je vous souhaite d'avoir Stella McCartney un jour, éventuellement. Non, parce qu'elle a pris des bonnes décisions dans l'univers de la mode, plutôt haute couture, plus premium, et qui ne sont pas toujours des univers où on réfléchit à ça. Donc, je me fallais un peu pionnière sur la mode durable et éthique, donc ça sera intéressant.
Est-ce que vous avez une rencontre, ou deux dans votre cas, qui aurait changé votre vie professionnelle ?
Plusieurs, sincèrement, tous les ateliers avec lesquels on a travaillé, tous les artisans. Souvent, on ne se rend pas compte de tout le travail qui est fourni derrière un produit. À chaque fois qu'on va à la rencontre d'un atelier qui fabrique nos gants, nos écharpes, chacune de ces rencontres, ça donne envie d'aller encore... plus loin dans la marque et de travailler encore plus, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui bossent derrière, souvent à la main, qui réfléchissent à des produits depuis des générations, et on est content à chaque fois, ça nous pousse à aller encore plus loin dans notre travail et de pousser encore plus ces ateliers, parce que notre réussite, c'est aussi la leur, donc c'est souvent quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? J'imagine sur as.fr et dans vos boutiques, donc on a dit Paris, Lyon et bientôt Bordeaux. Est-ce que vous recrutez en ce moment ?
Il y a des postes à pourvoir. Alors, on est sur la plateforme Welcome to the Jungle, sur lesquelles tous les postes sont disponibles. On sait qu'on recherche en vente. On a besoin de personnes en boutique. Et après, actuellement, on vient de finir des recrutements au bureau, donc pas pour l'instant, mais j'espère bientôt. Ouais, ça veut dire que tout ira bien.
Ça marche. Et on va rester à l'affût. Merci beaucoup à tous les deux. Et longue vie, alors. On se retrouve dans 10 ans pour un nouvel épisode.
Merci beaucoup.
Merci pour cet échange.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.